À présent, plus d'un tiers de femmes totales, en augmentation de 50% en 5 ans. En rugby, pas de changement malgré le Covid. Le match France-Écosse aura bien lieu dimanche au Stade de France. Match comptant pour le tournoi Destination. 15 cas positifs au Covid ont été recensés dans les rangs des Bleus, dont le sélectionneur Fabien Galthié est plus de la moitié des titulaires. Enfin, 79 morts, c'est le bilan effrayant des violences dans les prisons d'Équateur. Des mutineries ont éclaté hier dans plusieurs prisons. La situation est sous contrôle selon les autorités qui incriminent des rivalités entre gangs, notamment les gangs du narcotrafic. C'est la fin du journal. Très bonne fin de journée sur RFI.
Radio G. www.radio-g.fr.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Tous et bonsoir à toutes, vous écoutez Radio G et c'est maintenant l'heure de retrouver l'oreille curieuse, un repère dans vos semaines, un rendez-vous quotidien pour découvrir actualités, recommandations culturelles et locales. Nous sommes mercredi et c'est le jour du cinéma, où on retrouve le guichet choral, la chronique proposée par Céleste. Aujourd'hui, il sera question d'animation, mais cette fois-ci avec Hayao Miyazaki. Et je suis sûre que l'évocation, seulement cette évocation de ce nom, vous crée plein d'images dans l'esprit de cet univers complexe et très vaste. On va en parler en début d'émission. Un mercredi sur deux, vous retrouvez aussi le Prêt-à-penser, la chronique où Nicolas nous parle de psychologie, sans chichi, sans jargon, sans complexité, avec des choses très concrètes. Ce soir, il sera question des réseaux sociaux, mais avec la dopamine, cette drôle d'hormone qu'on connaît mal et qui est responsable, entre autres, de notre sentiment de satisfaction. On en parlera en milieu, deuxième tiers de l'émission. Vous voyez ça ? Pour animer, rythmer ce programme, toujours réalisé avec patience et foi, j'ai envie de vous dire, c'est Annelie derrière le micro. Le proverbe de ce soir n'en est pas un, c'est une citation. Et elle est de Henry James, un écrivain américain qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle. Et il nous dit, Henry James, « Les histoires arrivent à celles et ceux qui savent les raconter ». Je vous laisse y penser, si comme moi vous savez très très mal raconter les anecdotes. Bien entendu, on va ouvrir cette émission en musique. Alors ce soir, moi j'avais envie de quelque chose d'assez péchu. J'avais envie de techno en fait. Et j'ai choisi de vous faire écouter un titre du duo Ascendant Vierge. Le titre s'appelle Faire et Refaire. Et je vous dirai quelques mots pour vous présenter ce drôle de projet musical juste après.
J'y vois clair, je le sens. Je voudrais le faire ici.
Ascendant Vierge, un projet musical singulier. C'est un duo où l'on retrouve Mathilde Fernandez à la voix et Paul Seul aux machines, aux choses qui tapent. Mathilde Fernandez, on l'avait entendu auparavant avec un projet beaucoup plus chanson, avec son nom propre, piano-voix par exemple. Et vous avez entendu qu'elle a une voix où elle travaille le chant lyrique. Alors on est vraiment dans un univers mi-pop, mi-chant lyrique, je ne ferai pas de frontière entre les deux. Et c'est aussi une artiste qui nous vient des arts visuels et de la performance. Elle cloisonne pas forcément son travail, elle a beaucoup d'influences musicales, mais on n'aura pas le temps de les aborder ici. Et elle a rencontré donc son acolyte, Paul Seul, qui était dans le collectif Casual Gabbers, donc un univers beaucoup plus techno. Pareil, je me lance pas dans une histoire des rave parties, mais ensemble ils ont créé ce duo où on dit que chacun tire le meilleur de ses pires défauts. C'est une citation du site gonzai.com qui a fait un portrait de ce projet musical, un article qui est assez intéressant. Tous les deux ont sorti un maxi EP fin 2020. L'EP s'appelle Vierge. Et vous avez remarqué que leur nom de groupe, c'est Ascendant Vierge. On dit qu'ils partagent le même signe astrologique qui aurait donné la couleur du projet. Et c'est aussi un écart qu'ils ont décidé de mettre en avant, car on dit, de ce signe, pas de toutes les personnes qui sont vierges, rassurez-vous, que c'est un signe très rigoureux et aussi assez prudent. Avec une musique qui tape autant, ça peut être un peu surprenant. Donc oui, on a des gros kicks, aussi une esthétique très fluo, très club. On pourrait dire de mauvais goût dans les vêtements. Et en même temps, ils font des choses. Ils ne s'interdisent visiblement pas grand-chose. Voilà, je suis assez curieuse de voir où peut aller Ascendant Vierge. Si vous avez envie de découvrir plus en profondeur ce groupe et ce projet, je vous mets le lien vers l'article de Gonzaï sur le podcast de l'émission. C'est à la page de l'Oreille Curieuse sur le site de Radio G, bien sûr. On continue ce programme avec un rendez-vous habituel du mercredi. Vous l'attendiez, c'est le guichet choral, la chronique cinéma.
Précédemment, dans mes dernières chroniques, disponibles sur le site de Radio G à la page du guichet choral, je vous ai parlé d'un univers que j'adore, celui du cinéma d'animation. Dans ma première prose sur le sujet, j'ai abordé mon studio d'animation préféré, Pixar. Je vous ai parlé de l'attention qu'ils donnent à leurs histoires, ainsi que des thèmes parlant autant aux grands qu'aux petits. Dans celle qui a suivi, j'ai composé autour du réalisateur Brad Bird, figure importante de la firme à la lampe sautillante, et dont j'apprécie beaucoup le travail. Aujourd'hui, je termine sur le thème de l'animation, avant d'y revenir peut-être plus tard, qui sait, en naviguant sur les longs fleuves du pays du soleil levant, à la rencontre du réalisateur le plus apprécié par les critiques du monde, Hayao Miyazaki. Et comme j'aime bien le sous-texte, les thématiques et les films qui savent faire voyager les adultes comme les enfants, c'est de cela que l'on va parler aujourd'hui. Bonsoir, je suis Céleste du Guichet Choral, et aujourd'hui, on va parler de Hayao Miyazaki, son œuvre et ses thématiques qui la parcourent. Tout d'abord, comme d'habitude, un peu d'histoire. Hayao Miyazaki est né en 1941 à Tokyo, donc autant vous dire que son enfance a été marquée par la Seconde Guerre mondiale qui a dévasté le Japon, l'inspirant pour ses futures productions. Sa passion des avions et du vol en général, extrêmement présent dans son œuvre, lui vient de son père, Katsuji, qui était directeur d'une entreprise de aéronautique appartenant aux frères de son père. Un grand nombre de ses autres thèmes récurrents, la place de la femme et la maladie, proviennent de sa mère, qui était une femme intelligente et stricte, et qui est tombée malade alors que le jeune Hayao n'avait que 6 ans. Pendant sa dernière année de lycée, il découvre le film d'animation Le Serpent Blanc du studio Toei, studio extrêmement connu pour avoir produit les séries animées japonaises du Club Dorothée, genre Dragon Ball, Albator, Les Chevaliers du Zodiac, etc. Le Serpent Blanc était également reconnu pour avoir été le tout premier film d'animation japonais en couleur. Pour Miyazaki, ce film est une révélation et va déclencher son intérêt pour l'animation. En 1963, il commence sa carrière chez la Toei comme intervalliste. Pour la faire courte, dans l'animation, il y a une personne qui dessine les images clés, c'est-à-dire les points les plus importants d'une animation. L'intervalliste est là pour dessiner entre les images clés pour obtenir une animation fluide. Il va très vite se faire remarquer et va grimper les échelons jusqu'à atterrir sur la première série télévisée du studio. En 1964, il devient secrétaire en chef du syndicat des travailleurs. Et c'est là qu'il rencontre Isao Takahata, à l'époque vice-président du syndicat, et futur cofondateur des studios Ghibli avec Miyazaki. L'année 1965 marque sa toute première collaboration avec Takahata et sa rencontre avec Akemi Ota, qui deviendra sa femme et avec qui il aura deux garçons, dont le premier, l'aîné, fait aujourd'hui de l'animation au studio Ghibli. En 1978, c'est un certain reporter du nom de Toshio Suzuki dont il va faire la connaissance. Celui-ci va ensuite être connu surtout pour être le producteur en chef des films des studios Ghibli. L'année d'après, Miyazaki va réaliser son tout premier long métrage, Le Château de Cagliostro. Le fameux studio Ghibli, dont je parle depuis tout à l'heure, sera fondé en 1985 après le succès de Nausicaa de la Vallée du Vent. Le premier film produit par le studio sera Le Château dans le Ciel, l'année suivante, donc en 86, un récit inspiré du troisième voyage de Gulliver à Laputa, la forteresse volante. Mais la première vraie consécration du studio sera en 88 avec Mon voisin Totoro, qui a connu un tel succès que le personnage de Totoro est devenu aujourd'hui la mascotte du studio. Les succès continuent de s'enchaîner année après année avec Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, qui obtiendra l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003, Ponyo sur la falaise, etc. En 2013, Miyazaki prend sa retraite en sortant un dernier film, Le Vent se lève, inspiré de l'histoire romancée d'un ingénieur aéronautique japonais. Malgré cela, Hayao Miyazaki ressent constamment le besoin de créer, si bien qu'en 2018, il sort le court-métrage animation Boro la petite chenille et Infatigable annonce travailler sur un nouveau long-métrage qui sortira dans les années qui suivront. Sauf si vous écoutez ce podcast dans le futur. Dans ce cas-là, il est probablement déjà sorti et je vous remercie de m'écouter en cette année 2034. Maintenant que la partie histoire est terminée, prenons le Totoro par les cornes et engouffrons-nous dans le cœur de cette chronique. L'un des thèmes les plus importants et plus chers à Miyazaki est sûrement la nature, l'écologie et l'environnement. Nausicaa de la Vallée du Vent, deuxième film de réalisateur, raconte l'histoire d'une humanité qui survit 1000 ans après une guerre d'une extrême violence ayant causé la chute de la civilisation. La nature a depuis repris ses droits et une gigantesque forêt, nommée la Fukai, ne cesse de gagner du terrain sur le reste de l'humanité en relâchant des spores mortels pour la majorité des êtres vivants. De plus, cette jungle d'arbres est protégée par des insectes géants adaptés à l'environnement. Ici, la nature est puissante, effrayante et pas forcément très avenante au premier abord. Les apparences finirent par être trompeuses car le point de vue de Miyazaki dans ses films est que l'humain doit vivre en harmonie avec la nature. Celle-ci est d'ailleurs omniprésente dans le film. Elle aide l'héroïne comme elle la repousse. Les insectes géants du film, avec leurs myriades d'yeux, que je trouve vraiment effrayants, ont beau paraître menaçants, ils sont quand même utiles jusqu'au bout. Et gentils parfois. Dans Princesse Mononoke, c'est la rupture de cette harmonie entre l'homme et la nature qui cause les événements du film, la guerre entre la nature et les humains. Dans Mon voisin Totoro, les deux héroïnes déménagent au milieu de la nature et découvrent peu à peu ce monde fabuleux, jusqu'à rencontrer l'esprit de la nature en personne, ainsi que le lot de créatures qui l'accompagnent. Dans ce film, Mon voisin Totoro, la nature est sujette à l'émerveillement, au fantastique et à la découverte. C'est sûrement le Miyazaki que j'aime le moins car il est très centré sur la découverte des créatures, de la part des petites héroïnes, et ça manque un peu du coup d'aventure, mais il reste quand même très sympathique. Un autre des thèmes importants et chers à Miyazaki est bien sûr le féminisme. Les femmes sont importantes chez Miyazaki, elles sont fortes, obstinées et centrales. Elles sont mises en valeur par l'histoire, que ce soit en tant que protagoniste ou antagoniste. Dans Le Voyage de Chihiro, Kiki la petite sorcière, Mon voisin Totoro, Nausicaa ou Le château ambulant, les héroïnes sont des adolescentes qui tiennent le rôle principal. Dans Porco Rosso, Princesse Mononoke, Ponyo sur la falaise ou Le vent se lève, elles sont secondaires, mais elles sont très loin d'être anecdotiques. Dans chacun de ces films, les femmes sont bien plus que présentes, utiles et incroyables. Là où de gros idiots états-uniens, par exemple celui avec des oreilles rondes, peinent encore à avoir de vraies héroïnes qui rayonnent et sauvent des hommes de situations inextricables, ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant, mais à l'époque ça l'était. Dites-vous que ce qu'on a aujourd'hui dans le cinéma de blockbuster actuel avec des femmes fortes, bien écrites et qui sauvent la situation, Miyazaki le faisait déjà il y a 20-25 ans avec brio. Dans Princesse Mononoke, les deux femmes qui tiennent une place importante sont Dame Eboshi, une chef d'une communauté de reclus composée d'anciennes prostituées, de femmes discriminées, d'hommes pauvres, voulant raser la forêt pour protéger les siens. C'est Dame Eboshi qui veut raser la forêt. Et la fameuse Princesse Mononoke, qui s'appelle San, une humaine élevée dans la nature, capable de commander une armée d'animaux. La femme est aussi une inspiration dans Le Vent se lève, ou tout simplement le moteur de l'intrigue dans d'autres films, mais pas en tant que demoiselle en détresse. Chez Miyazaki, les personnages principaux ne sont jamais membres d'un conflit. Ils se retrouvent bien souvent malgré eux au cœur de ce conflit, entre deux feux. Par exemple, Ashitaka dans Princesse Mononoke, qui se retrouve entre le monde des animaux de San et celui des humains de Dame Eboshi, ou dans Le Château Ambulant, avec Sophie au centre du conflit qui oppose Aoru, le fameux maître du château, à la sorcière des Landes. Dans les films de Miyazaki, on a également une grande influence marxiste-communiste. Pas celui de Staline, hein, celui du bouquin qu'ils ont mal appliqué. Cette influence a grandement été formée par ses jours au syndicat des travailleurs de la Toei. C'est visible par la place qu'a le travail ouvrier dans chacune de ses œuvres. Dans La Voyage de Chihiro, l'héroïne, donc Chihiro, est très vite engagée à travailler dans le monde imaginaire où elle est prisonnière. Les films de Miyazaki sont remplis de personnes qui se lèvent, se lavent, travaillent, mangent. Le propos reste très réel malgré l'incursion dans des mondes fantastiques. Le vivre en communauté, le vivre ensemble, est ce qui aide et sauve les humains. Seuls, ils ne sont rien. Bien que les Miyazaki soient jonchés de catastrophes, on rappelle que Sineas a été marqué par la Seconde Guerre mondiale, le propos qui importe est l'entraide de ces humains face aux événements. Dans Nausicaa de la Vallée du Vent, la Terre a été détruite par un conflit sans précédent et les humains qui y restent doivent s'entraider pour survivre, ce qu'ils ne font pas tous, causant la colère de la nature. Et c'est tous ces thèmes qui forment le cinéma caractéristique de Miyazaki et qui le rend si riche et intéressant. C'est pour ça qu'il plaît autant, c'est parce que ça apporte un vent de fraîcheur face au mastodonte Disney. On aime à voyager dans l'univers merveilleux du réalisateur japonais. C'est poétique, c'est beau, c'est enchanteur. C'est tellement influent qu'aujourd'hui les marketeurs invoquent le nom de Miyazaki à chaque fois qu'un film japonais beau et poétique débarque. Par exemple les films de Makoto Shinkai, qui a fait Your Name et Les Enfants du Temps, qui sont très incroyables par ailleurs, vraiment voyez-les. Là où Miyazaki fait fort aussi, c'est que tous ses films sont animés à la main et donc en deux dimensions. Là où un grand nombre d'animateurs et de réalisateurs ont effectué leur conversion à l'animation en images de synthèse. Souvenez-vous dans ma chronique sur Brad Bird. C'est toujours d'une beauté époustouflante et ça a beaucoup de charme. Ça apporte un peu un vent de fraîcheur. Là où toute l'offre disponible actuellement est en images de synthèse, trois dimensions, excepté les travaux de certains studios un peu plus indépendants. Et moi j'aime bien les films en animation traditionnelle. Je vous ai déjà dit que Pixar était mon studio d'animation préféré, et j'adore absolument leur travail de l'animation. Mais la traditionnelle en deux dimensions est vraiment magnifique, que ce soit les Miyazaki, l'animation japonaise en général ou les vieux Disney. Elle a beaucoup de charme et je trouve ça dommage que beaucoup de studios ont fait la conversion à la 3D sans forcément revenir à du plus traditionnel, pour offrir un peu de diversité. Mais je m'égare, il est temps de conclure. Miyazaki est un pilier de l'animation mondiale. Il a permis une ouverture du regard occidental vers l'animation japonaise, là où, quand les studios Ghibli n'étaient qu'à leur début, l'animation japonaise était surtout connue et critiquée pour être violente, du genre Ken le survivant, Dragon Ball, les chevaliers du Zodiac, et assez cheap dans son animation, économie de moyens, image fixe. Pour ceux qui ont regardé les vieux animés japonais comme Albator ou Capitaine Flamme, vous savez de quoi je veux parler. Miyazaki a montré à ces gens que les États-Unis n'étaient pas les seuls à produire de l'excellent contenu en animation. Personnellement, j'ai découvert ses films il y a 2 ou 3 ans en plein été, en commençant par Le Château Ambulant. C'est pour ça qu'il a une place particulière dans mon cœur. Et aujourd'hui, je suis toujours époustouflé par la qualité de ce que j'ai vu. Que ce soit les fabuleuses histoires de Miyazaki, la sublime animation de l'équipe des animateurs, ou la musique enchanteresse de Joe Hisaishi, qui a suivi Miyazaki depuis Nausicaa. Si vous ne vous êtes pas encore plongé dans son œuvre, je vous conseille très fortement de vous y mettre, car c'est une claque de tous les instants. Je ne vous recommande donc pas un seul long-métrage, mais l'ensemble des films d'Hayao Miyazaki, car tout est de bon à prendre. Voyez des films d'animation, du Miyazaki, autre chose que de l'États-Unien. Portez-vous bien, salut.
思議な出会い。
C'était la musique de mon voisin Totoro, mais tout le monde l'a reconnu, j'imagine. Alors après, tout le monde, il y a très certainement des personnes qui n'ont pas vu ce film, telles que moi, je me confie ce soir à l'antenne. Merci beaucoup Céleste pour cette chronique du guichet choral. Vous pouvez bien sûr la réécouter sur le site en podcast, elle est toute bien découpée, elle va être en ligne à partir de lundi prochain, je pense. Vous êtes en attendant sur Radio G, le 101.5, c'est l'oreille curieuse évidemment. Et un autre rendez-vous, un mercredi sur deux, et celui-ci consacré à la psychologie. On retrouve Nicolas, et qui va faire des liens. Allez, je vous laisse l'écouter, il va tout vous dire.
Quel sentiment tu ressens?
J'aimerais faire une introspection, quoi.
Trouve-moi un dictionnaire, regarde l'introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, je m'appelle Nicolas Andrades et vous êtes dans le Prêt-à-penser, la chronique psycho de l'oreille curieuse sur Radio G. Alors après nous être intéressés aux écrans, puis plus spécifiquement à l'utilisation des téléphones par les enfants, nous allons aujourd'hui nous pencher sur l'épineuse question des réseaux sociaux sur Internet. Et pour vous parler des réseaux sociaux, je vais utiliser un angle qui va peut-être surprendre. Je vais vous parler de la dopamine. Alors la dopamine, qu'est-ce que c'est ? Eh bien la dopamine, c'est une hormone, plus exactement un neurotransmetteur. Autrement dit, c'est une substance sécrétée par le cerveau pour assurer son fonctionnement en rapport aux événements rencontrés. La dopamine, elle est aussi communément appelée hormone du bonheur. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que sa sécrétion correspond à des moments de satisfaction, de plaisir, de récompense, etc. En gros, quand on atteint un but, quand on profite d'une récompense après un effort par exemple, notre cerveau sécrète de la dopamine. Alors vous vous demandez peut-être en quoi ça concerne les réseaux sociaux tout ça. Eh bien c'est parce que je ne vous ai pas encore dit que l'une des choses qui procure le plus de plaisir susceptible de provoquer des décharges de dopamine, ce sont les interactions sociales. Finalement, on peut dire que ce que l'être humain désire par-dessus tout, c'est d'être aimé, d'être reconnu, d'être considéré par ses semblables. Et à chaque fois qu'une personne reçoit une preuve d'amour par un semblable, elle est heureuse et son cerveau sécrète de la dopamine. Alors, il y a aussi une autre chose que je ne vous ai pas dit à propos de la dopamine, c'est qu'elle est hautement addictive. C'est-à-dire que plus on en sécrète, plus on en veut. Et plus on va rechercher des situations susceptibles de nous faire sécréter de la dopamine. Et là, on se dit que la nature est bien faite quelque part, puisqu'en nous rendant dépendants à l'amour, elle nous pousse aux interactions sociales, au partage, à la coopération. Bref, cette dépendance nous pousse à la rencontre. Alors oui, ça c'était avant les réseaux sociaux sur Internet. Et oui, parce que les réseaux sociaux ont réussi ce tour de force de dissocier les interactions sociales des rencontres réelles. On publie une photo, une pensée, le clip de notre chanson préférée. Nos contacts réagissent par un like, un retweet, voire même un commentaire, qui nous font sentir exister aux yeux des autres, nous sentir considérés, importants. Et à chaque notification, réaction de contact, c'est autant de délicieux shoots de dopamine dans notre cerveau. Les publications provoquent des likes, qui provoquent des shoots de dopamine, qui provoquent l'envie de plus de dopamine, donc plus de publications, plus de likes, etc., etc., etc. Vous voyez à présent comment le cercle vertueux de la dopamine avec les rencontres et du partage réel se transforme finalement en une dépendance négative au réseau social virtuel. Négative parce qu'elle coupe de l'environnement social plus qu'elle n'ouvre. Le réseau social virtuel, comme source potentielle intarissable de dopamine, qui contrairement aux situations naturelles, ne se retrouve même pas régulé ni par le temps ni par l'espace. Vous imaginez bien que le cerveau, dans ces conditions, il a beaucoup, beaucoup de mal à résister à cette tentation. Et pour couronner le tout, voilà que le smartphone vient quasiment annihiler la frontière entre réel et virtuel en nous connectant en permanence au virtuel. Imaginez une personne souffrant d'alcoolisme qui aurait en permanence à la ceinture une bouteille magique qui se remplirait d'elle-même et de façon aléatoire. Vous pouvez vous imaginer la fréquence avec laquelle cette personne souffrant de dépendance vérifierait le contenu de sa bouteille. Ça vous rappelle rien ? Je pense que si. Des études récentes ont mis en évidence des comportements incontrôlés de plus en plus répandus chez les utilisateurs de réseaux sociaux sur smartphone. Vérification répétée, clics irrationnels alors même qu'aucune notification n'est affichée. Incapacité à accomplir une tâche sans l'interrompre jusqu'à plusieurs fois pour vérifier son téléphone. Certains témoignages font même état de notifications fantômes, c'est-à-dire de sensations imaginaires de vibrations de smartphone dans la poche du pantalon. Parfois même, ces vibrations sont ressenties alors même que le smartphone ne se trouve même pas dans la poche. Ces comportements trahissent le mauvais côté de cette dépendance, c'est-à-dire qu'en cas d'insatisfaction, de manque de dopamine, on voit apparaître des troubles anxieux, des troubles du sommeil, de l'humeur, pouvant aller jusqu'à la dépression. Il est donc primordial de prendre conscience de ce danger en tant qu'utilisateur régulier des réseaux sociaux sur Internet. Important également, en tant qu'adulte, de savoir qu'en fournissant des moyens de connexion à son enfant, on prend le risque qu'il entre dans cette dépendance et ne la contrôle pas. Là encore, mon conseil n'ira pas dans le sens d'une diabolisation du smartphone ou des réseaux sociaux, mais plutôt vers une vigilance envers sa propre utilisation de ses réseaux et celle de ses enfants. Le signal d'alerte doit être, bien évidemment, la diminution du nombre ou de la qualité des interactions réelles de la vie quotidienne. Alors, petite astuce pour finir, toute simple, mais qui peut vous éclairer sur votre niveau de dépendance et celui de vos proches. Au moins un jour dans le week-end, je vous conseille de faire le test. Après avoir effectué le passage en revue de l'actualité de votre réseau social préféré, désactivez les données mobiles de votre smartphone et fixez-vous, vous-même, une heure de réactivation à un moment qui ne nuira pas aux interactions sociales, familiales ou amicales. Voyez si vous parvenez à vous y tenir déjà. Combien de fois vous êtes tenté de manipuler votre téléphone avant de vous rappeler qu'il n'est pas connecté ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est plutôt difficile ? Autant d'indices qui vous en apprendront davantage sur votre éventuelle addiction et vous pousseront, je l'espère, à mettre en œuvre des attitudes régulatrices si elles s'avéraient nécessaires. Quant à moi, je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau prêt-à-penser.
Ça va mieux ?
Eh, beaucoup mieux. Super.
Merci Nicolas. Je ne sais pas si ça va mieux après t'avoir écouté, car je pense qu'on est tous en train de s'inquiéter. Est-ce qu'on est capable de désactiver notre téléphone quelques minutes, quelques heures, quelques jours, n'y pensons même pas. Mais à l'occasion, ce test de déconnexion volontaire peut être un bon exercice. Bon, prochain prêt-à-penser dans 2 semaines, ce sera la surprise pour la thématique abordée. Si cette question de dopamine vous a intéressé et que vous avez envie de creuser plus loin, je vous recommande une courte, très courte série documentaire qui est disponible sur le site de Arte. arte.tv. La série s'appelle Dopamine et ce sont, il y a 9 vidéos ou 10, ou même moins en fait, je compte assez mal. Allez, il y a 8 vidéos qui sont consacrées à la réaction du système dopaminergique à certaines applications très connues qui sont constamment dans nos poches. Chaque vidéo donc fait 7 minutes, c'est très pédagogique, c'est aussi très drôle avec des images comme piochées d'internet, des smileys, c'est un peu kitsch mais ça peut aussi permettre de rendre les choses très pédagogiques. Donc c'est une très bonne porte d'entrée sur déjà comment ça fonctionne, les addictions à ces applications. Alors, on retrouve dans cette série Dopamine Tinder, Facebook, Candy Crush, Instagram, YouTube, Snapchat et Uber. Et à chaque fois, c'est un petit peu la même histoire. Comment ça se fait que je voulais juste voir une info quelques secondes et ça fait 15 minutes, 20 minutes, 2 heures, 4 heures que je suis en train de scroller, liker, répondre à des messages. Ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair, c'est très accessible et si vous avez envie de la partager pour ouvrir cette discussion avec des personnes autour de vous, je pense que ça peut être un bon biais. Je vous redonne le nom de la série, c'est Dopamine sur arte.tv. Trop facile à trouver. C'est presque la fin de cette émission et juste avant, on va prendre le temps d'écouter un titre de Stav. Stav, qui est un artiste angevin qui a rejoint l'équipe Espoir du Chabada, une équipe qui soutient des artistes locaux auxquels on croit. Et Stav a sorti son premier EP début février. Cet EP s'appelle Musique de supermarché. Alors il y a des tubes dedans, vraiment faut l'écouter, c'est très plaisant. C'est un univers complètement différent, sachant que Stav, il a eu énormément de projets musicaux. Il a beaucoup de pseudos dans la programmation de Radio G. Mais cette fois-ci, c'est un univers beaucoup plus pop et où il se dévoile quelque part. On écoute Fusée de Stav.
Les gens pensent que je suis ailleurs, que j'ai pas les pieds sur terre. C'est juste que cet après-midi j'ai pas trop la déterre. Vous savez pas ce que c'est d'avoir des rêves plein la tête et pas savoir comment les rendre matériels. Je manque de confiance en moi, pourtant j'ai toujours raison. Je m'en fous de ce qu'ils pensent en vrai, je reste caché dans la maison. Je glande avec mon chat, Netflix me décontracte. Je rêve de me téléporter dans ma télévision et de devenir acteur connu. J'emmerde tous les gens qui me jugent. De toute façon, y'a que mon chat qui me comprend dans ce monde injuste. C'est pas ma faute à moi si j'ai pas trouvé ma voie. Je sais que je vais tout niquer, je vais faire 10 choses à la fois. Je vais sortir un album, je vais écrire un livre, je vais même réaliser un film. Je vais fonder une grande famille avec Billy. Après, on achètera un voilier, on fera le tour du monde, on nettoiera toutes les plages polluées en fumant des cigarettes. Mais dis-moi ce qui m'en empêche. Bon, je vous dis pas ça parce que ça j'ai bu le verre de trop. Et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon c'est tous des cons. Trop, trop, c'est abusé. Ce soir je me pose plus de questions. Ouais, je me sens invincible comme une petite fusée. Vous m'aurez pas cette fois, comme mon chat j'ai cette vie. Je peux donc rejoindre cette fois le club des 27 piges. Je suis sauvage et indomptable, même si je suis un chat de salon. Et que certains matins je veux die, la flemme de mettre mon pantalon. C'est vrai que je suis un petit peu indécis et que je dors un peu trop. Je rêve d'une vie sexy, d'influence Frenchie. Ouais, je veux filmer les dauphins en sous-marin et sauver la terre avec un certain style américain. Même si j'ai plus la tête de Bourville, hey. Et que mes projets affrontent dans les oubliés. Que je me cache derrière ma grande gueule ou bien ma gueule de bois. Je vais tout niquer, non j'ai plus peur de moi. Et dis-moi ce qui m'en empêche. Sûrement pas tous ces cons. Cette fois je le fais, c'est bon. Je vous dis pas ça parce que ça j'ai pu le faire de trop. Et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça peut faire? C'est abusé, ce soir je me pose plus de questions.
fois, c'est bien la fin de l'oreille curieuse. Merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute. Sinon, à quoi ça servirait qu'on fasse des émissions de radio? Vous pouvez tout réécouter en ligne et en podcast sur le site de Radio G, bien sûr. Nous, on se retrouve demain à 18h10. Nous serons jeudi. On parlera de littérature ainsi que de cinéma et du dispositif du service civique. Ce sont les trois rendez-vous de demain. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, à nous faire des retours. Quelles que soient les choses que vous voulez partager avec nous, on est toujours très heureux de les lire. Ça se passe via le site de Radio G, on a un formulaire de contact, et sinon via les pages des réseaux sociaux de la station. Facebook, Instagram, Twitter, je vous dis ça tous les jours, vous devez être barbé. Hein. Bon, je vous le dirai sans doute demain. Je vous souhaite sincèrement une très belle soirée pour ce soir. Et à 19h dans quelques minutes... et sans doute jusqu'à longtemps. C'est la programmation musicale de Radio G. Éclectique. Allez, bonne soirée, à demain.
Radio G, 101.5 FM.
Remember you. Remember you.
Dur de garder tes 32 ans. Quand ton pose, pousse-toi devant.
avant, avant qu'on t'explose dans mon clan. C'est du fait maison que du méchant son. Et dans nos chansons, ouais, dans nos chansons, ça parle de mauvais garçons, de nichons, d'alcool et de chichons. Comme demi-portion, 32 temps, dur de garder tes 32 temps. Quand on pose, pousse-toi devant, avant qu'on t'explose dans mon clan. C'est du fait maison que du méchant son. Ouais, dans mes chansons, et dans mes chansons, ça parle de mauvais garçons, de nichons, d'alcool et de chichons.
Seulement par outrage, grave, planifie les pages. Rage au premier âge, alors kiffe le son et fit braquage. L'effet de passage, l'image qui nous attache. Passer le message, blesser les sages est notre seule tâche. Pas reculer, plutôt éviter de se faire. Vu que les oncles la merde accumulée. Près de toi, on produit pur qui nuit, qui t'instruit. En intro, sur l'instru, déduit l'intrus, s'abstruit. Qui est-ce qui pisse sur ton single? C'est les grandes gueules. Presse le pic sur la feuille et pète les décibels. T'es même pas l'heure et tu te mets dans la peau d'un dealer. Tu délires, stop tout, laisse la place à crâleur. À celui qui te crame, virus imprégné, ravale des histoires de macadam. T'es très mal renseigné, demi-portion de style. Pense lyrique, son freestyle. Anarchiste en révolte, posé sur l'instrumental. Système mental, bouge-toi avec les faux sentiments. Aucune comparaison, juste ferme-la si tu manques. Rancune comme raison, y'a que ça qui me résonne. Le réseau du gouvernement, et encore complet de bouffons. Mais on fait avec, on accepte leur fête. Jean-Marie Le Pen sera fiché pendant plusieurs siècles. Pendant plusieurs siècles.
Quand demi-portion, 32 temps, dur de garder tes 32 temps. Quand on pose, pousse-toi devant, avant qu'on t'explose dans nos clans. C'est du fait maison que mes chansons. Et dans mes chansons, ouais, dans mes chansons, ça parle de mauvais garçons, de nichons, d'alcool et de chichons. Comme demi-portion, 32 temps, dur de garder tes 32 temps. Quand on pose, pousse-toi devant, avant qu'on t'explose dans nos clans. C'est du fait maison que du mes chansons. Ouais, dans mes chansons, dans mes chansons, ça parle de mauvais garçons, de nichons, d'alcool et de chichons.
The pawn stuck in a rut. We yelling, wanna be free. Encourage to fuck it up. They profit off of that too. Bail money more, want bodies, then leave us there just to stew. See, we catch they foot on our throat. Some of that make the news. Brick ball and be all somber. Chris Cuomo done had enough. Tucker can't understand it. And Tommy be talking tough. And this is Don Lemon. Be feeling bad for the nigga. I know his soul wanna cuss. He stuck preserving the image that we've been told that they love. And if we want at the end, gotta pull up our pants and speak correct English. I can never give a fuck. Don't know what these crackers thinking. They have no room here to judge. Best focus on their own sickness. And I'll take care of my own. Yeah, bobbing back to Barstool. Coming live from the other side of the wild, Oh man, here we go again. So armor bolted to my torso, the hunt is on. Bells rain, blow the murder horn. It's all a game, we at halftime, the quad sang. The band uniforms were sponsored by the NRA. Niggas rarely on, they rather that way. Have our guard down, then a slap in the face. We stun, asking what now?
five comes with the floods. We want the gate down so much we'll rent a plane and do it they style. Just a pencil prediction from the nigga enigma. My sons are growing to men in rooted land. My blood is in the soil. Ancestors still where I stand. What they know so little about and struggle to understand. Feet swinging from the levee. My soul is on a projector. Growing to my role. Provide a teacher protector. A poet rolling easy wider. Peep my perspective.